Bonjour à tous, c'est Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Suzanne Sontag. Suzanne Sontag est née le 16 janvier 1933. Lorsqu'elle nous quitte à 71 ans, le 29 décembre, à New York, elle nous renvoie à l'Amérique des années 60-70, dont elle était la figure féministe la plus en pointe, considérée par les médias comme la première intellectuelle des États-Unis. Romancière, cinéaste, essayiste, critique, metteur en scène de théâtre, des goûts littéraires hétéroclites, Suzanne Sontag avait une curiosité universelle. Femme d'engagement multiple au sein de la gauche américaine, elle défendit toujours âprement son indépendance et la liberté en général avec un tempérament passionné, mais extrêmement lucide sur son époque. Avec ses faux airs de squaw, dans cette mèche blanche au milieu de ses cheveux de jet qui sera vite le style Sontag, se laissant mitrailler par son amie Annie Leibovitz ou faisant son apparition dans des films de Warhol ou de Woody Allen, sans compter ses provocations spontanées toujours sincères, jamais cabotines. Aujourd'hui, Virginie Bloch l'aînée et Clotilde Pivin vous offrent à nouveau le portrait de Suzanne Sontag, l'intellectuelle qui aima l'Europe et la France au point d'y être inhumée.
Je veux coucher avec beaucoup de gens. Je veux vivre et je hais l'idée de mourir. Je n'enseignerai pas, je ne ferai pas de master après mon BA. Je n'ai pas l'intention de laisser mon intellect me dominer. Et la dernière chose que je veuille faire est de vénérer le savoir ou les gens qui ont le savoir. Je me fous de la façon dont quiconque rassemblera les faits. Sauf que c'est une réflexion de sensibilité basique que j'exige vraiment. J'ai l'intention de tout tenter, d'avoir une seule façon d'évaluer l'expérience. Me cause-t-elle du plaisir ou de la douleur, et je prendrai grand soin de rejeter ce qui est douloureux. J'anticiperai le plaisir partout, et le trouverai aussi, car il est réellement partout. Je vais m'impliquer totalement. Tout a de l'importance. La seule chose à laquelle je renonce est le pouvoir de renoncer, de battre en retraite. L'acceptation du semblable et de l'intellect. Je suis vivante, je suis belle, que demander d'autre ?
Moi, je pense qu'il y a une sorte de virilité émotionnelle chez Sontag, plus que quelque chose de Kemp, parce que l'attitude Kemp est une attitude qui déborde et qui donc ne se contrôle plus. C'est une forme de non-contrôle de soi, ce qu'elle décrit d'ailleurs très bien dans justement dans la phrase proustienne. Elle va trop loin, elle se contrôle pas. Et pareil
c'est
pour le chanteur de cabaret. Il y a un très grand contrôle chez Sontag, fût-ce pour parler de choses qui sont justement la perte de contrôle, comme l'émotion, la maladie, la torture, enfin tous ces sujets qui sont des sujets magnifiques, mais il y a dans la fabrication de son œuvre et dans son personnage un grand contrôle, donc elle n'est pas très quinte à mon avis.
Alors je précise que cet extrait de Renaître, qui sont donc ces journaux écarnés, est traduit de l'anglais par Anne Vick.
Et ça vous inspire quoi, ce passage écrit par une jeune fille de 16 ans ?
Ça aurait pu être écrit par elle bien plus tard.
Pierre Assouline.
Également. C'est-à-dire que on la retrouve là, telle qu'en elle-même, à 16 ans, à 40 ou à 60 ans. C'est du Suzanne Sontag. C'est son tempérament, sa personnalité. Ça montre bien que, vous savez, il y a un dicton qui dit que à 20 ans, on est achevé d'imprimer. Un écrivain est achevé d'imprimer. Ça veut dire qu'à 20 ans, un homme ou une femme est fait. L'essentiel est là. Après, on ne fait que rajouter des choses. Et bien là, à 16 ans, on voit, grâce à ce journal, que Suzanne Sontag est déjà faite. C'est-à-dire que toute sa vie, elle s'est battue contre le renoncement. Suzanne, c'est la femme qui ne renonce pas. Ça, c'est extraordinaire. En cela, c'est une leçon, quoi. C'est plus qu'une morale ou une philosophie, c'est une leçon. C'est pas seulement l'obstination, le courage. Hein. On a une idée de la vie et dans la vie, et on s'y tient. On a un sillon et on le creuse.
Mais c'est aussi le programme d'une surdouée. À 16 ans, vouloir construire sa vie comme ça.
Je ne pense pas qu'il soit indispensable d'être surdoué pour savoir ce qu'on veut à 16 ans. On en connaît d'autres, au même âge, qui savent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas surdoués de la vie. Non, moi, ce n'est pas ça qui me frappe. Surdoué, on la retrouve par la suite dans d'autres reflets de sa personnalité, et à travers ses journaux, par l'intelligence, par la rapidité. Mais la détermination, pour moi, ce n'est pas la marque de la surdouée.
I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, faut
voir. C'est-à-dire qu'à 15 ans, elle veut réussir sa vie intellectuelle et réussir sa vie érotique. Comme on dit que le bonheur, ça vient pas tout seul et que ça se travaille, ben elle prend vraiment le taureau par les cornes. Enfin, elle est très déterminée, très jeune. Elle a conscience que ça dépend que d'elle. Elle dit « Personne ne m'empêchera de faire ce que je veux, que moi. »
Ah, c'est magnifique, on devrait tous admirer ça, je pense. C'est formidable, elle a laissé à personne d'autre le soin de gérer sa vie. Elle a décidé, bon voilà, elle a décidé de se marier, elle a décidé d'avoir un enfant, puis elle a décidé d'après de vivre autrement, elle a décidé de partir. Suzanne, ça n'a jamais été une victime de rien, hein, ni de son époque, ni d'elle-même. Elle était très consciente de tout. Alors malheureusement, sans doute, elle n'avait pas prévu que la maladie serait d'une telle violence avec elle et pendant de si nombreuses années. Il faut quand même penser qu'elle a quand même eu 3 cancers et qu'elle a lutté incroyablement, en tout cas 2 cancers. Et c'est un paramètre auquel qu'elle n'avait pas imaginé, c'est sûr. Alors, elle n'a jamais été une militante. Comment dire, son homosexualité, bon, voilà, c'était un choix qui n'a pas été toujours le même dans sa vie d'ailleurs, puisqu'elle a eu, d'autres aventures amoureuses. Sa vie privée n'a jamais été une chose militante, au contraire, elle ne l'a jamais. Et d'ailleurs, certaines militantes de la Californie lui ont reproché. Hein.
Qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous avez lu le premier tome du journal Dominique Bourgois ?
Mais moi, ce qui m'a vraiment profondément bouleversée, c'est de voir qu'en fait, c'est toujours émouvant de voir la création d'un personnage, de voir l'invention d'un personnage. C'est toujours bouleversant de voir d'où ça vient.
Là, je veux dire que je retrouve la surdouée. C'est un peu fort, mais non, on retrouve la jeune fille qu'elle n'a jamais cessé d'être et qui est quelqu'un qui est tout le temps dans l'introspection, qui a une intelligence d'une lucidité effrayante sur elle-même et qui n'hésite pas à dire les choses sans passer par le filtre de l'inhibition qui est celui de la plupart des gens. Elle dit les choses crûment. Il y avait une personne comme ça, c'était Marguerite Duras, que j'ai un peu connue et qui parlait comme elle. Sauf que Suzanne Sontag, c'est surtout dans ses écrits, dans son journal, où elle est très très directe. C'est un vrai journal, c'est-à-dire que on voit bien parfois, il y a des raccourcis, on n'a pas le sentiment qu'elle écrit pour la postérité. Elle écrit d'abord pour elle. Le contraire du journal de Gide, qui est écrit comme une œuvre d'art, en sachant qu'il sera en Pléiade. Donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que là, on touche l'os tout de suite. Et on est dans le vif de la vie et le vif du sujet. C'est pour ça qu'il est très touchant, ce journal. J'avais commencé à lire en anglais, quand il est paru, tellement j'avais envie de savoir ce qu'il en était, parce que je voulais voir ce que ça allait donner et tout de suite, j'étais frappé parce que c'était la voix de Sontag.
Il n'y avait pas de modèle dans ma famille, on est parmi les gens qui m'entouraient. Évidemment, il y avait quelques enseignants qui voyaient que j'étais très bon élève et qui m'a prêté des livres aussi. Mais j'étais très isolée. Je crois que c'était aussi une enfance classique pour un écrivain. Aussi, j'étais malade. Souvent, j'avais le l'asthme, c'est-à-dire j'ai passé un certain temps au lit, en lisant, toujours. J'ai passé mal mon enfance. En même temps, j'étais, si je peux le dire, un peu déçue par l'enfance. J'attendais d'être adulte, parce que pour moi, devenir adulte, ça voulait dire que je serais libre de faire ce que je voulais faire. J'avais beaucoup de temps à moi-même et j'étais jamais ennuyée.
Non, mais ça j'ai l'impression, jamais.
Choses. Non, jamais. Que c'était jamais. Même. C'était je passais d'un délire à l'autre, un autre. Bon, j'ai donné à mon fils, j'avais un enfant, toute l'éducation que je n'avais pas moi-même. Le pauvre, à l'âge de 3 ans, je l'ai appris à lire, je l'ai amené au concert, au musée, etc. Je me souviens que mon fils avait 15 ans et il a fait une chose très enfantine. Et je lui ai dit, quand même, tu as 15 ans, sois un peu plus adulte. Il m'a dit, mais j'aime être un enfant. Toi, tu n'as pas aimé d'être enfant, mais moi, j'aime cet état, j'ai aucune envie de grandir.
Même si nous mourons avant d'avoir fait l'expérience des choses que nous exigeons de la vie, cela n'a plus d'importance quand nous mourons. Nous ne perdons que le moment dans lequel nous nous trouvons. La vie est horizontale et non verticale. Les choses ne s'accumulent pas. Il faut donc vivre et ne pas ramper. Renaître, 1950. François Quisset, c'est au milieu des années 60 que Susan Sontag s'installe à New York. C'est à ce moment-là, donc elle a 30 ans, c'est à ce moment-là qu'elle écrit son premier roman, Le Bienfaiteur. Et c'est à ce moment-là surtout, en 1964, qu'elle écrit un texte qui s'appelle Notes on Camp. Et c'est ce texte qui l'a fait connaître. C'est quoi le camp ?
Alors déjà, le texte Notes on Camp fait partie d'un volume qu'elle publie donc en 64, Against Interpretation, contre l'interprétation, qui est typiquement un texte théorique très critique, très rentre-dedans, typique de cette époque des années 60, contre l'idée d'analyser les textes, de leur donner un sens, de déployer concepts et institutions, alors que les textes dépasseront toujours les concepts. Et l'article le plus célèbre de ce volume, c'est effectivement Notes on Camp, qui, disons, est célèbre pour deux raisons. D'abord parce que c'est le plus provocateur de ces articles pour l'époque, d'ailleurs il l'est encore, et bien sûr parce qu'il va rétrospectivement être lu comme annonciateur, avant-coureur, pionnier par rapport à toutes les théories queer et toutes les théories de l'homosexualité en art et en littérature. Donc c'est simplement une série d'aphorismes, quoi, des notes numérotées sur ce terme intraduisible en anglais, enfin un terme anglais, qui est camp, donc to be camp. Alors c'est très très difficile à traduire, d'abord même le registre, parce que c'est ni argotique ni formel, c'est quelque part entre les deux. Camp, c'est effectivement quelque chose d'un peu outrancier, d'un peu ridicule, qui est à la fois du côté du ridicule et du dérisoire, qui peut à la fois s'appliquer par exemple à la voix criarde, voilà, une voix féminine très criarde, très voilà, un hurlement, qui peut s'appliquer bien sûr à certaines attitudes de folles, donc d'homosexuels caricaturaux ou délibérément caricaturaux, qui peut s'appliquer à quelque chose de très maniériste, de très fleuri, d'un peu voilà, d'un peu trop d'excessif dans le maniérisme. Et ce qui est typique de Sontag, c'est qu'elle part de ce mot qui est assez commun en anglais et elle essaie de comprendre ce voilà comment est-ce qu'il peut éclairer une traversée de la culture moderne et contemporaine occidentale.
Mais pourquoi elle le fait à ce moment-là ? C'est parce que on reparle à ce moment-là en 64 du camp ou c'est lié à la contre-culture ?
Je crois qu'elle le fait parce qu'elle va passer sa vie en fait à refuser la séparation entre haute culture et pop culture, si vous voulez, entre ce qu'il y a de plus commercial et contemporain qu'elle a pu mépriser et critiquer à l'occasion et la culture lettrée érudite qu'elle incarne, parce que Harvard, la Sorbonne, amie de Roland Barthes et tout. Donc le camp, c'est typiquement le pont entre les deux, puisque c'est d'ailleurs ça se voit dans les références qu'elle.
C'est des références très éclectiques.
Voilà. Donc elle va chercher en fait l'exemple du camp à la fois chez les chanteurs drag queen. Donc c'est pour ça que ça sera réutilisé ensuite dans les théories du transvestite, du drag queen contemporaine comme chez Judith Butler. Elle va le chercher dans les bandes dessinées de Flash Gordon, vous voyez le super-héros américain, mais aussi bien sûr dans la phrase de Marcel Proust qui pour elle est toujours en excès par rapport à ce qu'il y aurait à dire. Donc c'est un excès qui se présente comme excès inutile. Donc comme une forme d'impuissance de l'écriture, donc qui pourrait être ce qu'on dirait aujourd'hui queer, elle dit camp, mais aussi évidemment chez Oscar Wilde.
Mmh. Chez Henry James aussi, elle dit aussi Henry James, il est camp, parce que dans le camp, il y a du pathos, mais il n'y a pas de tragédie. Enfin, c'est très subtil, elle essaye de cerner les contours, mais ça se fait par petites touches, et c'est... Mmh. Elle fait c'est ce qui est camp et pas camp, elle dit que Bette Davis dans Eve, c'est camp.
Alors effectivement, ce qui est intéressant sur Henry James, c'est qu'évidemment on l'attend pas dans cette liste, mais peut-être effectivement ce qui pour elle est camp, c'est une incapacité à aller au-delà du pathos vers quelque chose qui serait plus noble, qui serait effectivement la tragédie, les sentiments romantiques. C'est un pathos qui se sait ridicule, et c'est vraiment pour ça qu'elle l'utilise pour décrire. Alors Henry James c'est pas le bon exemple, mais pour décrire ce qu'il peut y avoir de peureux, de dérisoire, d'hypochondriaque, etc. Non seulement chez l'homosexuel caricatural, la caricature d'homosexuel, c'est-à-dire aussi l'image de l'homo chez l'homophobe, elle le dit bien, mais aussi chez n'importe qui. Donc elle, ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est que c'est une attitude humaine, donc quelque chose qui relève de la psychologie, voilà, qu'elle analyse comme style. Et d'ailleurs, elle dit à la fin, l'une des dernières notes de cet article Notes on Camp, c'est qu'à la fin, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas du tout le contenu de cette attitude, qui en tant que contenu est justement un peu ridicule, mais le fait qu'elle est, l'attitude compte plus que son contenu, et que donc le camp affiche la supériorité du style sur la substance, et que le style est supérieur à voilà à la substance ou au genre dans lequel il s'affiche, et que un style détaché de tout contenu, c'est pour elle ce qu'il y a de plus magnifique, y compris quand c'est ridicule et dérisoire, comme voilà comme une drag queen sur scène dans un cabaret new-yorkais. Alors évidemment, la supériorité du style en soi, là on se retrouve au cœur de quelque chose de très intellectuel qui la rapproche voilà de gens comme Roland Barthes, et qui nous éloigne bien des drag queens.
Une fois, une soirée quelconque, à New York, je crois, en Californie, peu importe, j'ai croisé Wim Wenders. Alors, j'ai appris que, pour le moment, il s'installait, je crois, effectivement, c'était à San Francisco, qu'il vivait à San Francisco depuis un certain temps, que je ne savais pas. Alors, je dis, mais qu'est-ce que ça te va, vivre aux États-Unis? Tu aimes ça, tu préfères vivre ici. Voilà, évidemment, il a passé la plupart de sa vie en Allemagne. Et il m'a dit, ah, j'adore les États-Unis, ici, il n'y a pas le fardeau de la culture. Alors, j'étais très choquée, même offensée. Je ne sais pas s'il l'a dit au sérieux, ou c'est pour me taquiner, ou c'est simplement une boutade. Il aime choquer les Américains, parce que quand même, ce n'est pas un compliment. Mais je crois quand même il y a quelque chose là-dedans qui sonne vrai. C'est-à-dire pour les immigrés déjà cultivés, éduqués, qui choisissent les États-Unis, ils ont l'idée de choisir la barbarie. Parce que la barbarie a beaucoup de prestige depuis longtemps.
Elle a écrit un texte, un petit texte qui s'appelle 30 ans plus tard, et elle dit, lorsque j'ai publié ces notes, j'ai été qualifiée de faiseuse de goût. Et voilà, ma célébrité est venue et on a dit que j'étais une faiseuse de goût.
Alors, effectivement, je pense, il y a eu énormément de commentaires et de critiques et de réactions fortes à l'époque. Ce qui a sans doute choqué lorsqu'elle a fait ça, c'est moins la défense d'un style qui serait un style queer, homosexuel ou transier, maniériste, que... effectivement, l'idée qu'elle prenne position, qu'elle dise ceci est camp, ceci n'est pas camp, ceci est intéressant, ceci n'est pas intéressant, ceci est faux, ceci est vrai. Évidemment, elle va chercher la vérité. Pour elle, c'est une sorte de fausseté au carré. C'est-à-dire, justement, il y a une vérité, encore une fois, du chanteur de cabaret déguisé en femme sur scène, qui voilà. Donc, elle se fait arbitre des élégances. Et c'est quelque chose qui ne se faisait pas, en tout cas, chez les intellectuels publics et encore plus chez les intellectuels universitaires qui se contentent de commenter, expliquer ce que pense un tel et une telle, mais surtout pas fournir un jugement de goût. Elle ne cessera toute sa vie durant, toute son œuvre durant, d'afficher des goûts et même de dire que l'intelligence, la pratique théorique intellectuelle relève du goût ou alors n'a aucun intérêt. Je crois qu'elle disait que l'intelligence était un goût dans l'ordre des idées. Quoi. Voilà, ce qui est typique d'elle, c'est ce pont en permanence jeté entre les deux rives opposées de l'émotion et de l'intelligence. Quoi.
Et elle dit aussi, François Cusset, qu'elle est à la fois très attirée et très irritée par le camp. Elle est camp?
Alors, c'est difficile de savoir si elle est camp. Il y a dans le personnage qu'elle s'est créé délibérément, donc dans une forme de théâtralité outrancière justement, depuis la célèbre mèche de cheveux jusqu'à
teinte en blanc,
jusqu'à évidemment son devenir pop. Hein, c'est-à-dire le fait qu'elle a eu des compagnons et des compagnes qui relevaient plus de la pop culture que du monde intellectuel et qu'elle voilà, c'est affiché en photo, par sa compagne Annie Leibovitz. Enfin, donc, il y a dans cette fabrication d'un personnage très théâtral une attitude, une stratégie même qu'on pourrait dire camp. Après, si on veut vraiment, c'est un jeu un peu dangereux, mais si on veut vraiment catégoriser en termes d'attitude des auteurs, moi je pense que il y a une sorte de virilité émotionnelle chez Sontag, plus que quelque chose de camp, parce que l'attitude camp est une attitude qui déborde et qui donc ne se contrôle plus. C'est une forme de non-contrôle de soi, ce qu'elle décrit d'ailleurs très bien dans justement dans la phrase proustienne. Elle va trop loin, elle se contrôle pas. Et pareil
c'est
pour le chanteur de cabaret. Il y a un très grand contrôle chez Sontag. Fût-ce pour parler de choses qui sont justement la perte de contrôle, comme l'émotion, la maladie, la torture, enfin tous ces sujets qui sont des sujets magnifiques, mais il y a dans la fabrication de son œuvre et dans son personnage un grand contrôle, donc elle n'est pas très quinte à mon avis.
Mais c'est toujours un corps qui parle hein, avec Sontag, dans tous ses livres, c'est ça qui est formidable, c'est que le corps s'exprime, parce qu'il est très présent, elle écrit avec son corps, c'est pas une main à plume, c'est ça qui est bien, c'est pas détaché, la main n'est pas détachée du reste.
On retrouve dans ses essais, enfin, elle est très cérébrale, Suzanne Sontag, mais à la fois ses sujets, ses objets de travail et la façon dont elle parle des livres sont imprégnés de sensualité.
Et... Oui, parce qu'elle fait corps, c'est le cas de le dire, hein. Elle fait corps avec non seulement ce qu'elle écrit, mais ce qu'elle lit. Vous dites qu'elle est une cérébrale, c'est vrai, dans le bon sens et le mauvais sens du terme, c'est qu'elle cérébralise tout ce qu'elle approche. Et on a le sentiment qu'elle a une approche intellectuelle de tout.
J'ai le cœur pulsing, Manhattan, 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 fait le pic d'abîme, Manhattan, Manhattan. Mélange subtil, Manhattan, 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 d'allégresse de spleen, Manhattan.
Il y a une tension, Manhattan, Dominique Bourgois, que l'on sent dans le journal, qui est un écho à ce que l'on peut lire dans les essais, entre le corps et la tête. C'est-à-dire qu'elle se demande où mettre sa vitalité, s'il faut la mettre du côté du corps ou du côté de l'activité intellectuelle. Elle associe souvent l'expérience esthétique à une expérience érotique. Elle compare le plaisir de lecture souvent à un plaisir érotique. Donc c'est une tension qui parfois est une alliance, une tension parfois résolue. Est-ce que vous la sentiez, cette tension, ou cette alliance, cette manière d'appréhender les textes comme si c'était une expérience érotique, amoureuse, lorsqu'elle vous parlait d'un livre ou lorsqu'elle vous parlait d'un spectacle ou d'un film?
Ça, c'est peut-être aussi le côté un peu exalté, tu sais. C'est-à-dire que lire un livre, c'était pas une chose... C'était forcément... Ça devait forcément provoquer en vous une réaction. Et c'est formidable si c'est pas qu'une réaction physique, intellectuelle. Si bien, c'est vous ressentez dans votre corps aussi. Donc c'est ça qu'elle voulait dire, je pense.
Je trouve qu'elle a une lecture très sensuelle,
ah,
particulièrement.
Oui. De toute façon, c'est une personne extrêmement sensuelle. Je veux dire, ça participait de son personnage. C'est quand même quelqu'un qui était une grande séductrice. Mais c'est ce qui voulait vous séduire intellectuellement, mais aussi par son charme, par sa présence. Elle le dit dans son journal. Elle dit « J'aime bien les beaux vêtements, j'aime bien m'habiller, j'aime bien... » Elle avait toujours...
J'aime la beauté.
Oui,
elle a la beauté physique.
Bien sûr.
Et elle dit même
sûr.
Maladivement.
Oui, mais bien sûr. Mais on peut se poser une question. Moi, je suis pas sûre que Suzanne s'aimait beaucoup.
Mais pourtant, elle se sentait belle, hein, parce qu'elle était très belle.
Oui, mais je suis pas sûre qu'elle s'aimait beaucoup. Je pense que il y a des moments du journal où elle parle de son corps. Je suis pas sûre que voilà. Mais au fond, je suis pas convaincue qu'elle se soit elle-même aimée beaucoup ou qu'elle ait elle-même aimé beaucoup son aspect physique, je ne suis pas sûre.
Où est-ce que je veux qu'aille ma vitalité? Vers les livres ou la sexualité? Vers l'ambition ou l'amour? Vers l'angoisse ou la sensualité? On ne peut pas avoir les deux. Je ne pense même pas à la possibilité très mince que je puisse tout récupérer à la fin. C'est d'en renaître. De qui cette photo?
C'est quoi cette idée qu'on ne peut pas avoir les deux? On ne peut pas avoir le...
On peut pas avoir...
On peut pas avoir l'ambition ou l'amour, le travail ou l'amour.
C'est drôle parce que vous me faites lire ça. Hier, j'ai écrit un article sur mon blog qui s'intitule « Aimer ou travailler, il faut choisir » à propos d'un roman de Patrick Lapeyre, son dernier roman. Et c'est quand même une idée qui court depuis longtemps, hein, donc qu'elle reprend ici, qu'elle illustre parfaitement. Et je ne sais pas, c'est un problème que se pose tout écrivain. Et évidemment, elle se pose dès le début. Mais vous observerez qu'elle s'est mariée, qu'elle a fait un enfant. Moi, je connais des écrivains qui vous disent si vous êtes écrivain, vous consacrez à votre œuvre, vous ne partagez pas, vous ne faites pas d'enfants, surtout pas d'enfants. Et pas seulement les écrivains, les artistes. Hein. Je connais des peintres qui sont comme ça, des grands artistes. Ça me paraît un peu radical, parce que je connais tellement d'artistes qui sont consacrés à leur œuvre, et ça n'a pas été très loin. En revanche, bon, je rapprocherai plutôt ce qu'elle écrit de ce qu'a écrit George Steiner dans Réelle Présence. C'est la valeur des foudres de beaucoup de féministes, dont peut-être Susan Sontag, un passage où il explique que si les femmes n'ont pas créé au XVIIIe et au XIXe siècle, notamment, et un peu moins au XXe siècle, c'était parce que, c'est pas pour des raisons sociologiques, c'est parce qu'elles faisaient des enfants. Et quand on fait des enfants, on crée, on n'a pas besoin de faire une œuvre d'art. Donc ça, il a défendu cette idée, mais bon, c'est un peu difficile.
Susan Sontag, c'était une épouse, une très jeune épouse, elle s'est mariée à 17 ans, une très jeune mère.
Oui, mais c'est une façon de s'émanciper, hein. Oui. De se marier à 17 ans, c'est une façon quand même de marquer son territoire. Il y avait de ça, probablement. Mais la manière dont elle se sépare de son mari, et le sort de son fils, tout ça, puis ses rapports avec son fils, sont terribles, passionnants, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la tension, toujours. Dans la tension, une cigarette à la main. Et à la fois une tension et une curiosité vers les autres et vers ce qui se fait. Oui, moi je garderai cette dernière image.
Lorsque vous cessez de lire et reposez le livre, vous marquez la page pour pouvoir continuer votre lecture exactement au même point quand vous reprendrez le livre à un autre moment. De la même manière, quand vous faites l'amour et que vous vous arrêtez un instant pour aller aux toilettes, pour enlever vos vêtements, vous devez noter exactement où vous en étiez pour reprendre à ce moment exact un peu plus tard. Et alors, vous devez faire bien attention pour voir si ça marche, parce que quelquefois, même après une pause très brève, il est nécessaire de tout reprendre du début. Renaître, 1961.
J'aime le désert, je l'aime. Oui, c'est le pays. Il y a un écrivain, je ne me souviens plus qui a dit que chaque personne a un paysage intérieur, qui est le paysage qui vous a marqué le plus. Et pour moi, c'est. Peut-être c'est un peu triste dans un certain sens, mais c'est le désert. Mais à part ça, non, c'est aussi le désert dans tous les sens. Oui. Les provinces américaines sont des vraies provinces. Heureusement, il y avait une petite boutique dans le parce que tout ça, à cette époque-là, c'était pas la grande ville que vous avez connue. C'était presque un village. Je parle des années 40. Mais il y avait la plupart des rues n'étaient pas pavées. Dans mon école, il y avait seulement un étudiant, mais quand même un écolier qui venait à l'école à cheval. Moi, je venais à l'école en bicyclette. Mais lui, il a ligoté son cheval à cette structure. On mettait, nous les autres, mettait nos bicyclettes.
Il n'accrochait pas un cactus? Oui.
en tout cas... Mais il y avait dans le downtown de Tucson, qui était un village, une boutique où on vendait les cartes pour les anniversaires et des articles de papier dans le devant. Et derrière, il y avait un mur, des étagères avec des livres. Il y avait une grande série de livres qui s'appelait « The Modern Library », la bibliothèque moderne. C'était une série des classiques.
des classiques en anglais, la littérature européenne en traduction. Et j'avais découvert ces rayons, ces étagères, quand j'avais à peu près 9 ans. Alors j'ai décidé que si je peux lire tous les livres sur ce mur, bon, c'est comme ça que j'ai découvert le monde, quoi. Et c'était par les livres que toutes mes idéaux sont venus. Et plus tard, quand j'avais 13 ans, j'ai lu en traduction toujours les journaux d'André Gide. Et ça m'a donné une idée de l'écrivain qui m'a beaucoup marqué. Qu'un écrivain est quelqu'un qui se lève le matin, qui lit du Stendhal, après il va au piano et il joue de Beethoven, après ça il déjeune avec d'autres écrivains, après ça il va à une galerie, il voit des peintures, après ça il va à un concert, après ça et il voyage beaucoup. C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui s'intéresse dans tous les arts, dans la politique, bien entendu, la psychologie des gens. C'est quelqu'un passionné partout. Et ça, je crois, on découvre des idées qu'on a déjà en soi. Évidemment, j'aurais pu lire le journal de Gide en disant « ça c'est très bizarre » ou « ça c'est trop... » Parce qu'il y a d'autres écrivains, évidemment, qui n'a pas cette idée de la vie d'un écrivain, mais pour moi, c'était un synonyme d'avidité et d'enthousiasme, de désintérêt. Mais surtout, tout était par les livres.
Et en quoi François Cusset, elle est une intellectuelle américaine? Elle a un style américain?
Alors, d'abord, c'était sans doute la dernière figure historique de l'intellectuel public, qui est un paradoxe dans l'histoire américaine, parce que, bon, pour des raisons complexes, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais l'intellectuel est une figure européenne, et comme l'histoire, en tout cas du 19e siècle américain, c'est l'histoire d'une longue émancipation intellectuelle, justement, vis-à-vis des puissances non seulement coloniales, britanniques, mais aussi des influences françaises ou allemandes, donc il a fallu fabriquer sa propre figure de l'intellectuel. D'où la création de courants intellectuels américains comme le pragmatisme avec William James, quelques années après comme la philosophie analytique, qui sont des choses voilà ne ressemblant en rien à ce qu'on connaît chez nous. Donc l'histoire intellectuelle américaine, c'est l'histoire d'une professionnalisation et d'une spécialisation progressive, graduelle du travail intellectuel. Donc il y a aux États-Unis, voilà, il n'y a pas cette figure de l'intellectuel public, sauf qu'évidemment sur l'ensemble du XXe siècle, il y a des moments, des séquences historiques dans lesquelles interviennent des intellectuels publics. Donc il y a par exemple juste après la Deuxième Guerre mondiale, toute cette gauche intellectuelle critique très élégante, très bourgeoise, mais très radicale aussi, qu'on a appelée les New York Intellectuals, dont a fait partie, sans en faire partie, Hannah Arendt, et avec lesquelles et avec lesquelles d'ailleurs a travaillé Susan Sontag quand elle était jeune, donc c'est un peu son entrée sur la scène, quoi. Ça l'a beaucoup influencé. Et après, il y a des individualités, c'est-à-dire que voilà, si on prend deux siècles d'histoire américaine, il y a des intellectuels publics. On peut penser à Norman Mailer dans un tout autre genre, romancier, très engagé sur beaucoup de questions politiques. Mais encore une fois, c'est marginal. Donc par rapport à tout ça, Susan Sontag est l'exception. C'est une anomalie, c'est vraiment une figure qui à la fois intervient directement dans l'espace public, prend des positions extrêmement provocatrices, à mon avis, souvent, elle en sous-estimait le caractère polémique.
Et vous pensez à quel engagement?
Il y en a plusieurs. Il y a l'engagement, évidemment, contre la guerre du Vietnam, l'engagement contre ce qu'elle appelait la lâcheté de l'Occident pendant les guerres de l'ex-Yougoslavie, mais aussi les guerres au Proche-Orient. Et bien sûr, c'est un tout petit texte qui, après tout, n'a pas beaucoup d'importance, mais qui lui a valu des lettres d'insultes d'une violence inouïe. Vraiment, on l'a traité de truie juive, quoi. C'est le petit article qu'elle a écrit dans le New Yorker, la semaine après les attentats du 11 septembre 2001.
Contre l'arrogance. Enfin,
alors, c'était en fait un article à partir d'un mot, c'était le mot employé par le président Bush à l'époque pour désigner l'acte des terroristes d'Al-Qaïda, c'était la lâcheté, coward. Et elle s'est contentée de dire, ce qui allait un peu de soi, que on pouvait tout dire sur eux, sauf qu'ils étaient lâches, puisque pour mourir avec les avions qui projettent sur les tours, il faut pas être lâche, effectivement. Et qu'en revanche, elle a osé dire, bombarder de très très haut, dans des avions parfois sans pilote, des zones civiles au Proche-Orient, comme le font, peuvent le faire les avions américains, ça relève plus de la lâcheté. Évidemment, dire ça dans l'Amérique traumatisée la semaine d'après le 11 septembre lui a valu une bordée d'injures. Mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt ces prises de position-là qui en font, alors pour le coup, un intellectuel engagé, presque, selon le modèle sartrien.
Et pourquoi vous dites, François Cusset, qu'elle ne mesurait pas forcément la portée de ses engagements?
Bah, non, mais je crois que sur ce texte-là, elle a été très surprise, parce que, évidemment, la semaine d'après, on comprenait pas encore ce qui s'était passé pleinement, on comprenait pas l'état de torpeur et d'autocensure dans lequel était le monde intellectuel et littéraire américain, et finalement, voilà, on pourrait dire qu'il s'est tu, ce monde intellectuel et littéraire, pendant un an, peut-être deux ans, même deux ans complets, il s'est réveillé au moment du début de la guerre en Irak, il s'est tu pendant deux ans, et bah, la seule à avoir parlé, c'est la semaine d'après, et c'est Susan Sontag, donc quelque part, voilà, elle est sortie du bois sans se rendre compte, voilà, de ce que ça avait de courageux et d'exceptionnel.
J'ai consacré une grande partie de mon temps dans les années 60 pour introduire, présenter, faire connaître les écrivains et les cinéastes et certains penseurs que j'ai admirés, européens, notamment Lévi-Strauss, Bresson, Godard, Bataille, Blanchot, Barthes. Je pensais que je serais moins capable de faire ce genre de travail si, après un certain moment, je connaissais les gens sur lesquels j'ai écrit. Et c'était vrai. Mon rapport avait été avec leurs œuvres. Maintenant, j'ai un autre rapport. Qui est autre? Qui exclut l'écriture?
Elle a dit qu'elle avait appris à se déprendre de la modernité et que ce qu'elle avait pu écrire sur Robe Grillée, sur le nouveau roman, n'était pas forcément ce qu'elle pensait à...
Oui, je pense qu'elle a une double attitude, c'est-à-dire qu'elle a à la fois défendu ce qu'il y a de plus radical et avant-gardiste dans la culture ou la littérature européenne de cette époque, dont le nouveau roman, mais elle l'a fait pour des raisons stratégiques, parce que pour un peu comme un chien dans un jeu de quilles américain très conformiste, à l'époque où justement les auteurs beatniks ou la contre-culture américaine n'avaient pas leur place à l'université, et en même temps son cœur n'est pas là. On sent bien que ce qui l'intéresse, c'est quelque chose qui s'éloigne beaucoup des dogmes. Elle voit dans le nouveau roman aussi un contre-dogme, mais un dogme quand même. C'est-à-dire le dogme, le refus de l'arbitraire, de la fiction, enfin quelque chose qui relève quand même du dogme. Ce qui l'intéresse, c'est les positions contradictoires, un peu précaires, fragiles, et c'est les œuvres intellectuelles très fortes qui procèdent d'une sensibilité, principalement.
J'ai soutenu au début de ma carrière d'essayiste, certains livres, parce que je pensais que je devrais les soutenir, parce que c'était l'avant-garde, ou c'était l'avenir. Mais à vrai dire, j'ai pas aimé. Je me souviens d'avoir écrit quelque chose sur William Burroughs, très positive. Et la vérité, c'est que j'aimais pas du tout William Burroughs. Mais je pensais que je devrais l'aimer, parce que c'était... Et je me suis convaincue, c'est pas du tout dans la mauvaise foi, avec l'intention de mentir. J'étais absolument convaincue que j'admirais ce festin nu, ce célèbre livre de Burroughs. La vérité, c'est que j'étais absolument répugnée par le livre, par sa brutalité, par son cynisme. Mais je n'avais pas le courage de mes propres sentiments.
Mais c'est un des effets libératoires et du temps et de la lecture de Roland Barthes, je trouve.
Oui, alors je pense que Barthes avait le même problème un peu.
Alors, sur Roland Barthes, par exemple, donc sur lequel elle a écrit... en fait, c'était l'introduction au Barthes Reader, c'est-à-dire l'anthologie de textes de Roland Barthes présentant son œuvre en anglais. Elle a fait une longue introduction donc sur l'écriture même à propos de Roland Barthes, republiée par Christian Bourgois en tant qu'essai. Enfin, ça reste la longue introduction à ce volume.
C'est un texte qu'elle a écrit après la mort de deux ans.
Oui, voilà, qu'elle est mort en 81, alors qu'il est mort en 80. Et ce texte est un texte magnifique parce que bon, évidemment, on peut beaucoup écrire sur Barthes et ça relèvera toujours de quelque chose d'émotionnel et de sensible. Mais elle y dit des choses très vraies et surtout, il y a cette distance. Moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé chez les intellectuels américains. Il y a une distance à la référence française qui fait qu'il y a des moments de fulgurance. C'est-à-dire qu'elle dit des choses sur Barthes qu'aucun Français ne pourrait dire. Grâce à cette distance, justement, parce qu'elle le voit d'assez loin, même si c'était un ami. Alors, par exemple, elle fait une comparaison, enfin, une opposition, terme à terme, que je trouve, enfin, qui est tellement énorme que seul un Américain pourrait le faire, entre Sartre et Barthes. Elle dit, voilà, pour montrer ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas dans la culture française, Alors elle montre, elle dit qu'il y a chez Sartre, en tout cas le Sartre philosophe, une brutalité intellectuelle, une façon de tordre les concepts dans le sens d'un dogme, quelque chose de bon enfant aussi, c'est-à-dire une forme de naïveté dans le littéralisme philosophique et, ou allégorique, quoi. Et puis un personnage effectivement qui est celui de voilà de du maître à penser, de l'engager, etc. Et elle voit exactement l'inverse chez Barthes, et c'est ça qui l'intéresse, c'est-à-dire quelqu'un de trop raffiné pour être dogmatique, mais aussi de trop irrésolu, indécis, hésitant, parfois contradictoire, pour être engagé. Vraiment.
Mais c'est un autoportrait aussi, ce texte. C'est, elle parle d'elle.
Complètement. Elle l'a dit d'ailleurs ensuite, et puis ça a été dit dans plusieurs textes. Attention, c'est un autoportrait indirect, puisque si elle passe par un homme et un Français, c'est pour ne pas parler d'elle. Mais
vous voulez bien le lire, hein, ce passage sur Barthes.
L'utopie littéraire de Barthes se situe, du point de vue du caractère éthique, presque à l'opposé de celle de Sartre. Son caractère éthique apparaît dans les rapports qu'il établit entre désir et lecture, entre désir et écriture. L'insistance avec laquelle il affirme que sa propre écriture est plus que tout le produit de l'appétit. Les mots de plaisir, jouissance, bonheur reviennent sans cesse dans son œuvre et pèsent d'un poids qui fait penser à Gide, par la façon dont s'y mêlent volupté et subversion. Tout comme un moraliste, puritain ou anti-puritain, tracerait une frontière solennelle entre le sexe destiné à la procréation et le sexe pour le plaisir, Barthes partage les écrivains entre ceux qui écrivent « quelque chose », ce que Sartre désignait par écrivain, et les écrivains véritables, qui n'écrivent pas quelque chose, mais qui simplement écrivent.
Pour moi, Barthes, c'est un grand écrivain. Quand on parlait vraiment avec lui en confiance, alors il était complètement proustien. Et son idée de roman n'était pas du tout, disons, robrié, c'était Proust. C'était pas l'écriture au degré zéro, c'est l'écriture au zéro maximum qui l'a intéressé. C'était ça son idée de roman. Sans me comparer à lui, je peux dire que j'avais un peu la même traversée. J'ai commencé avec une idée de fiction parce que, au contraire de Barthes, j'avais commencé comme romancier. Mais j'avais une idée de roman qui était très influencé par ce que je pensais le roman devait être. Et sans me référer au ce qui est appelé le nouveau roman en France, c'était l'idée d'une écriture très épurée, de quelque chose qui se passait dans la tête, complètement dans la tête, où la construction de personnages, la psychologie, bien sûr, j'ai absolument été d'accord avec les critiques ici qui disaient que la psychologie n'avait aucun intérêt, que l'histoire n'avait aucun intérêt, que la personnalité n'avait aucun intérêt. L'écriture était quelque chose au-delà de tout ça. En même temps, il y avait en moi des tendances et des courants affectifs beaucoup plus larges et moins limités. Alors, je crois que l'évolution, mon évolution à moi, c'est de me libérer de certaines limitations. Simplement, je pense que la vraie littérature n'est jamais guidée par la théorie. C'est une chose créée par un tempérament.
Elle dit aussi des choses très belles sur la façon dont le désir chez Barthes, et en particulier le désir des objets littéraires, ou même des objets d'ailleurs pop, puisqu'il a écrit les mythologies, dont il parle dans ses livres, est toujours un désir teinté de mélancolie, ou plutôt un désir qui peut se retourner en mélancolie, et qu'en fait la frontière est très ténue entre désir et mélancolie, justement. C'est très juste, c'est exactement ça, il y a une mélancolie chez Barthes. Bah, pareil, de même que Susan Sontag n'est pas très camp, elle n'est pas très mélancolique. Alors, c'est un personnage tragique parce que évidemment il y a son combat contre le cancer, il y a ses très beaux voilà, cette très beau livre sur la maladie, son engagement sur le sida, les années de maladie où en plus elle est à Sarajevo et bon. Donc il y a un engagement tragique mais elle est pas du côté de cette mélancolie. C'est-à-dire, la mélancolie ce serait plutôt l'inaccès au tragique. On arrive même pas jusqu'au tragique, on s'arrête avant.
Alors, quel est l'intellectuel qui serait du côté de la mélancolie? Un intellectuel mélancolique
américain?
Oui, ou pas forcément.
Parce que français, ça serait typiquement Roland Barthes, moi je pense justement. Enfin, c'est ce qu'elle dit de Barthes. Américain, c'est pas facile, un américain mélancolique.
Ils ont forcément de l'énergie.
Effectivement, oui, on pense tout de suite à Norman Mailer, à quelqu'un de... Peut-être à sa façon, mais ce serait paradoxal, et c'est l'autre grand intellectuel public mort la même année que Sontag d'ailleurs, c'est Edward Said, l'intellectuel palestinien. Ils étaient très amis, très engagés.
Ils sont morts de la même maladie, enfin d'une leucémie.
Voilà, ils sont morts tous les deux d'un cancer. Et effectivement, il y a plus de mélancolie chez Said, d'abord à cause du combat évidemment qui a été le sien pour la Palestine, le combat qu'il est souvent, on pense, voué à l'échec, donc ça rend mélancolique. Et puis parce que c'est un homme aussi du modernisme, d'un autre âge, de la modernité, quoi. Mais pareil, j'ai du mal à penser Sontag comme mélancolique. Il y a quelque chose de trop résolu, pour le coup, en elle, quoi.
Usually full of something when the I poem gets written. Only children end up soft while threatening all along to be hard. Harlem destroyed most of my romantic. Hardness is not invented.
Usually full of something.
It is the healing of many wounds.
When the eye
a prognosis, a technicality built upon by our million moon mind. Rings that
Harlem
make the oak, stars
usually
that wound the black galaxy. And we say, it is
true. Susan Sontag est morte en 2004. Est-ce qu'il y a maintenant un ou une intellectuelle équivalent à elle? C'est-à-dire un intellectuel, pas universitaire, un peu people?
Non, parce que je crois que vraiment ce mélange de références théoriques européennes, d'élégance intellectuelle et de personnages pop, haut en couleur, intervenant dans les affaires de la cité, est un mélange moderniste, au sens où les Américains entendent moderniste. C'est-à-dire moderniste, en fait, c'est une période, c'est la période industrielle, c'est la période des avant-gardes, c'est la période Gotham City, en gros, ça va des années 20 aux années 70, si vous voulez. C'est la modernité, quoi, au sens. Et dans la période plutôt post-moderne dans laquelle on est aujourd'hui, où chacun est dans sur son territoire, qu'il soit universitaire ou médiatique, il me semble pas qu'il y ait de figure qui fasse comme ça le pont entre les territoires. C'est ça aussi qui relève du modernisme et qui relève aussi justement d'une figure sartrienne, même si elle aimait pas Sartre. Elle le voulait absolument, être à la fois romancière et théoricienne, faire le pont entre émotion, sensibilité, narration et théorie, engagement. Et ça, c'est pas compatible avec l'université. Alors évidemment, on pourra toujours dire que c'est impossible de faire les deux.
Vous avez lu ses romans, François Cusset ?
J'ai du mal. J'ai un peu de mal. Effectivement, je défie quiconque de me trouver un intellectuel digne de ce nom, qui soit aussi un bon romancier ou une bonne romancière. Sartre est une sorte d'exception, mais en général, les sartriens sont d'un côté ou de l'autre. Préfèrent le romancier ou le...
Et pourquoi c'est une inhibition par rapport... Pourquoi?
Je sais pas, c'est compliqué. D'abord, il y a la tentation de faire de l'écriture littéraire une illustration de thèse plus théorique ou plus politique. Bon, la littérature illustrative, c'est toujours très emmerdant. Et ensuite, il y a aussi une sorte de, et c'est là où c'est ce qui la rapproche peut-être de Barthes. Une incapacité à écrire, mais une sorte de sensibilité tellement à fleur de peau qu'on se retrouve beaucoup plus dans l'écriture que dans les idées. Ce qui fait qu'elle n'a cessé de chercher dans la théorie une forme d'écriture, de style, de poésie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, sans doute, chez Sontag, c'est le fait qu'il n'y a pas de frontière entre fiction ou littérature et essai ou théorie. C'est pour ça qu'elle s'est intéressée à Barthes, qu'elle disait des choses très belles sur les derniers textes de Barthes, qu'elle disait entièrement autobiographiques, c'est-à-dire La Chambre claire sur la photographie, Le petit Roland Barthes par Roland Barthes. C'est le moment où ce qu'il y a de plus théorique est en fait une façon de parler de soi. C'est aussi ça, Susan Sontag.
J'ai une idée très large de fiction. Je pense que la fiction a comme but d'approfondir les sentiments, le cœur, nos consciences, de nous rendre plus sensibles, plus attentifs, de renforcer nos sens de solidarité avec d'autres êtres humains. Parce que peut-être la raison principale pour laquelle je tiens au projet de fiction, c'est parce que je suis toujours en plein révolte en tant qu'être humain contre le cynisme de notre culture et toutes les choses dans notre culture qui nous privent de la sensibilité, qui nous rend durs et cyniques.
Mon amour, tu me manques, ça fait un bout de temps que tu te planques, que j'ai pas vu à l'horizon se pointer ton minois mignon. Mon amour, tu me manques, j'ai même oublié ton nom. Ton souvenir est une calanque, tout mon corps un chiffon.
Il y a toujours, et notamment dans le journal, l'idée qu'on peut s'améliorer et qu'elle peut mieux faire et qu'elle veut mieux faire et que personne d'autre qu'elle ne pourra l'aider à faire mieux.
Ça, c'est constant.
Oui.
C'est constant. Elle est en permanence une juive new-yorkaise, quoi. Elle n'est pas américaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Sa patrie, c'est New York. Ça a été aussi Paris, en grande partie, mais pour moi, c'est vraiment une juive new-yorkaise. C'est la Mittel Europa incarnée. C'est-à-dire que, non pas qu'elle ait vécu là-bas, mais il y a la trace. Elle a la trace en elle de tout ça. Dans son nom, dans ce qu'elle est, même dans son physique.
Pourquoi dans son physique ?
Parce qu'elle est quand même assez typée. Et en même temps, dans les photos, même les photos les plus jeunes, il y a dans le regard, justement, cette mélancolie. Je veux dire, le fait qu'elle ait été avec Annie Leibovitz, c'est pas un hasard. Il y a une osmose, quoi. Je parle pas du physique, mais je parle des origines. Enfin, c'est tout un...
Isabelle Huppert, vous avez rencontré Suzanne Sontag à quelle occasion ?
Oh, à quelle occasion ? J'avoue que je sais plus. Je crois que je l'ai rencontrée à New York. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Était-ce au milieu des années 80 ? Je crois. Alors, mes souvenirs se perdent. Je sais plus quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Mais au cours des années, on s'est revus à New York, à Paris. Elle aimait beaucoup la France, comme vous savez. Et voilà, elle parlait très bien français, elle aimait beaucoup le cinéma, elle avait une curiosité insatiable de tout, du cinéma, évidemment de la littérature, des événements politiques, des grands courants de la pensée auxquels, évidemment, elle a apporté sa pierre précieuse à de nombreuses occasions. Elle aimait la photo, elle aimait la peinture, c'était vraiment... un esprit très éclairé, très érudit, extraordinairement attentif aussi. Elle me l'a prouvé à beaucoup de reprises. Elle connaissait bien mes films. Je crois qu'elle m'aimait bien comme actrice. Et elle savait s'intéresser non seulement aux choses, à la pensée, à l'abstraction, mais elle s'intéressait beaucoup aux gens aussi.
Et la sophistication, ça te donnait quoi quand vous la voyez pour un dîner ou quand vous passiez quelques heures, comment ça se traduisait intellectuellement ou même dans son comportement?
D'abord, c'était quelqu'un qui avait énormément de charme, Suzanne Sontag. Elle était très belle, comme on dit, elle avait été très belle, mais vraiment, quand on voit des photos d'elle jeune, elle était d'une très très grande beauté. Donc, elle était assez impressionnante. Elle avait quelque chose de très assuré. Enfin, moi, en tous les cas, elle m'apparaissait comme telle. Peut-être elle n'était pas du tout à l'intérieur. On ne sait jamais comment sont les gens. On sait toujours qu'on présente une face au monde qui est forcément, souvent un malentendu, finalement. Et donc, je ne sais pas, je ne la connaissais pas assez bien pour savoir quelle fragilité ça pouvait recouvrir. Et il y en avait certainement une très grande. Mais ce n'était pas une sophistication qui intimidait tant que ça ou qui l'éloignait des gens. Parce qu'encore une fois, elle avait suffisamment de chaleur et d'attention aux autres pour que cette sophistication ce raffinement soit au service de l'intelligence de l'autre et d'une qualité d'attention.
Diva dort dans les dahlias.
loin, loin des escaliers d'or de la Scala. Qu'est-ce qu'elle a qui va pas? Diva s'en va, Diva s'en va, Diva s'en va. Diva.
C'était quelqu'un de mondain, Suzanne Sontag.
Oui, je pense qu'on peut le dire. Enfin, c'est mondain à la fois au sens, pour le coup, au sens camp, c'est-à-dire au sens proustien, c'est-à-dire au sens où elle était, il fallait en être, donc quel que soit le milieu. Et mondain aussi au sens, justement, du croisement des mondes. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve magnifique, mais ça peut avoir quelque chose de ridicule aussi, mais c'est magnifique, ça relève de l'encyclopédie, c'est d'avoir pu côtoyer Woody Allen, Andy Warhol, Patti Smith et Michel Foucault, Roland Barthes, voilà, enfin, d'être du côté d'Annie Leibovitz. Ouais. Et Marcel Proust. Donc voilà, elle était ce personnage difficile d'accès, très exigeant intellectuellement, très intransigeant, mais enfin volontiers mondain. Encore une fois, dans ce sens, à la fois le sens proustien, donc un sens stratégique, et puis au sens où il faut traverser son siècle, il faut être de son époque, il faut rencontrer tout ce qu'on peut.
S'intéresser à tout. Ouais, voilà,
à tous les. Donc de ce point de vue-là, voilà, ceux et celles qui l'ont croisé offrent tout sauf un résumé de Suzanne Sontag, parce que comment on peut la retrouver, voilà, en allant d'Hollywood à Roland Barthes, c'est difficile, elle est quelque part entre les deux. Ouais.
Mais elle était photographiée lorsqu'elle sortait, c'est de ce niveau-là ou,
Je sais que les premiers portfolios de photos d'elle avec prises par Annie Leibovitz, il y a des figures, je ne sais plus lesquelles, mais du show business américain, alors peut-être pas complètement mainstream, mais elle s'y est prêtée. Donc le fait qu'elle s'y soit prêtée indique aussi qu'elle n'était pas contre leur rencontre. Enfin. Dreaming.
We got 15 minutes, my friend.
Yeah, well, I told you. We're
laughing. It's awesome. We got plenty of time. This is great.
Oh, is he recording?
Yeah, man.
That's good. All right.
Okay.
C'était Une vie, une œuvre, Suzanne Sontag, une émission de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin, avec Dominique Bourgois, éditrice, Pierre Assouline, romancier, François Cusset, professeur d'études américaines à Paris 10, Isabelle Huppert, actrice, et la voix de Suzanne Sontag. Toute l'œuvre de Suzanne Sontag est publiée aux éditions Christian Bourgois. Son fils, David Riff, est l'auteur d'un livre sur la fin de la vie de sa mère, Mort d'une inconsolée, traduit par Marc Weitzmann et édité chez Climat. Prise de son, Aveline Carmois et Pierre Quintard. Mixage, Claire Levasseur. Recherche INA, Aude Vassan. Coordination, Anne de Biran. Picked up my vibe and hidden, you hung him in the mitten, and to put your breakfast flesh and I. Yo, the bean has five times off, and the top of the lay involved, and the top of the tin and blade, and he'll just get on himself. But side to pick and ball by his ears, make a call on a sheer of hess and drink the honey blender.
Une vie, une œuvre se réécoute et ce podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée, enrichie, élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Lily Cornaert. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.